10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Un rapport d'Amnesty International concernant les récents changements législatifs en Russie déclarait en 1993 « L'homosexualité, auparavant sujet tabou, a commencé à être abordée plus librement et parfois avec bienveillance dans la presse officielle avec l'arrivée de la perestroïka. » Ils y ont cru. Auparavant déchirés entre leurs désirs interdits et leur irrésistible soif de plaire, d'aimer, de vivre, ils ont cru pouvoir être acceptés malgré l'hostilité de l'opinion. Et 10 ans plus tard, la jeunesse du début des années 2000 y croyait. L'atmosphère du pays changeait, s'ouvrait sur le monde occidental, en accueillant sa culture. Le cinéma, les chansons, la littérature y parlaient d'une liberté où l'homosexualité n'était pas tabou. En 2012, après la parenthèse Medvedev, Vladimir Poutine a repris les rênes du pouvoir. Puis en 2013 est apparue une nouvelle loi prohibant la propagande homosexuelle auprès des mineurs. Un mauvais signe, une liberté qui n'était finalement qu'une tolérance, s'est effacée. Le chapitre ouvert 10 ans plus tôt s'est refermé.
Вороны москвички меня разбудили, промокшие спички надежду убили. Курить значит жить, значит, будем корабли в моей гавани жечь, на рубли поменяю билет, а грустить бы до самых поплеч я никогда не...
Aujourd'hui, je vous propose un roman paru aux éditions du Seuil en mars 2024, Espèce dangereuse, de Sergueï Chikhalov. Sergueï Chikhalov est né en Russie. En 1986, il vit en France depuis 2016. Le narrateur du livre est une voix qui ne dit pas « il », ni même « nous ». Cette voix est celle d'une multitude, qui s'exprime grâce à « on », ce pronom qui permet de transmettre la parole d'un ensemble aux contours mouvants, volontairement indéfinis, fragiles, et dont le sort est lié à la société à laquelle il ne peut échapper. Ce « on » porte la voix de ceux qui se taisent dans leur pays. Ce « on » recueille tout ce qui ne peut être dit, là où ils vivent.
Pendant une dizaine d'années, on a existé. On exista à la télé, à la une des plus gros magazines nationaux, dans la rue, au bureau, dans les bars, en soirée chez des amis d'amis. On crut véritablement devenir libre à la frontière millénaire dans les années 2000, lorsque Mylène Farmer donna son premier concert à Moscou dans le cadre du Millennium Tour par un mois de mars humide, la ville encore scellée par la neige. Ça arriva d'une manière inattendue, un peu comme tout dans ce pays. Une petite révolution sur laquelle il valait mieux ne pas attirer l'attention de peur de tout faire foirer. Faire comme si de rien n'était, profiter des bénéfices en se taisant, ni vu ni connu. Comprendre d'un coup que l'on ne dérangeait plus personne. Sortir dans la rue sans craindre d'être verbalisé, sans craindre de finir en tôle. Du jour au lendemain, on s'était retrouvés en prime time à la télé pour parler de nos livres dans une émission pour bibliophiles animée par un présentateur classe. Cheveux poivre et sel, petit foulard à carreaux noué autour d'un cou aux veines apparentes. On se trouvait sur les scènes fédérales les plus réputées pour proposer une nouvelle lecture de la Cerisaie et d'un tramway nommé Désir. L'État nous confiait la direction des théâtres et l'écriture de toutes les émissions importantes de la nuit du Nouvel An. On s'était réveillé avec le sentiment d'appartenir à l'élite intellectuelle, avec la certitude de faire partie des trésors de la nation.
Amnesty International
Dans son rapport de 1993, après avoir fait mention que la perestroïka permettait de lever le tabou de l'homosexualité, avait précisé « Mais un fort sentiment de réprobation subsiste dans l'opinion publique. » On ne change pas les mentalités de toute une société en un claquement de doigts, ni même en plusieurs années. Mais ils pensaient tous que la discrimination finirait par disparaître. Au cœur d'une population ancrée dans ses préjugés, ils savaient être encore considérés comme une espèce dangereuse. Mais gays et lesbiennes goûtaient la joie de n'avoir plus à se cacher. En quoi une jeunesse libérée allait-elle s'inquiéter de la réprobation d'une partie de ses concitoyens? S'inquiéter du vocabulaire habituel censé l'humilier? Les médias lui donnaient l'autorisation de ne plus être considérée comme anormale. Le monde qui s'ouvrait la rendait légitime.
Sous Poutine ou Medvedev, les samedis après-midi, c'étaient les retrouvailles entre amis dans le jardin Neskoutchny, le plus ancien parc public de Moscou. Des festivals de musique et de cinéma indépendants chaque week-end. On descendait des carafes de sangria menthe pastèque. On s'allongeait sur la pelouse mouillée, dans nos shorts honteusement courts. Sur scène se produisaient des groupes à la mode, du free jazz, de la new wave, du folk pop. On regardait 8 femmes, en plein air, et on rêvait de croiser Catherine Deneuve et Fanny Ardant le jour où l'on aurait enfin l'occasion de découvrir Paris. On leur demanderait un autographe, une photo ensemble peut-être. On était persuadés qu'elles ne pourraient pas refuser. On était persuadés qu'elles étaient gay-friendly.
Just like ice, and there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life.
Arrivait la saison de la datcha et l'on profitait de l'obsession de nos parents pour le jardinage pour squatter leur appartement. Inviter son amoureux. Faire des courses ensemble, cuisiner des plats exotiques avec des produits importés directement de l'Union européenne. Boire du vin rouge australien et quelquefois du champagne scoyé. Se raconter des conneries et rire à se rouler par terre. Regarder tout sur ma mère, la mauvaise éducation, parler avec elle, les amours imaginaires, pour la centième fois. Avec un vidéoprojecteur, notre chien dormant paisiblement, sans soupçonner que c'était ses derniers mois de vie. Se raconter nos rêves et nos projets improbables en écoutant le dernier album de Mylène Farmer, même si l'autre ne l'aimait pas tant que ça. Aimer, c'est savoir faire des concessions. Quand est-ce que le vent a commencé à tourner? On n'a pas vraiment fait attention. Lorsqu'on se croit heureux, on laisse passer bien des choses. Mais ça, c'est fait rapidement. Une dégringolade.
Le dernier chapitre du livre s'intitule « S'en aller ». L'auteur aurait pu lui donner un autre titre. « Partir »,« Quitter ». Non, « S'en aller ». Avec tout ce que ces deux mots font entendre de regret, de tristesse. Il faut lire « Espèce dangereuse ». L'histoire d'un rêve qui, devenu réalité, a été enlevé, arraché. C'est le récit de ce qui reste du passé quand la fuite vers la liberté se paie au prix de ce qu'on abandonne. Un pays, une ville, et le sentiment qu'on échappe à ce à quoi d'autres continueront d'être soumis. Ce « on » est aussi celui de l'exil. Que reste-t-il de ces 10 années
des souvenirs, des promesses.
Toi qui n'as pas su me reconnaître, ignorant ma vie, ce monastère, j'ai devant moi une porte entrouverte sur un peut-être, même s'il me faut tout recommencer. Solitude, ignorant ses cris, ses angles durs, j'ai dans le cœur un fil minuscule, fil amandule qui soutient un diamant qui s'use, mais qui est, je n'ai pas choisi de l'être, mais c'est la vie.
Retrouvons-nous le 20 octobre dans 10 minutes chronique, une émission de Viva Culture sur Westrock Radio.